Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique. À votre avis, Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Au Cameroun, le gouvernement a renforcé le dispositif de recouvrement de l'impôt sur le revenu et a élargi l'assiette fiscale pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Le taux d'imposition des personnes physiques est de 5,5% après abattement de 500 000 francs CFA, soit 780 $, ce qui correspond à 65 $ par mois. Nous savons que dans certains pays, la collecte des impôts est confrontée à la réticence d'une grande partie de la population, d'où le choix de ce sujet aujourd'hui. Alors nous allons essayer de savoir pourquoi une telle réticence de la part du contribuable, comment amener les personnes imposables à contribuer à l'impôt sur le revenu, sans oublier une question essentielle qui coule de source, à savoir comment garantir que l'argent collecté soit utilisé à bon escient, c'est-à-dire pour le développement du pays, car il s'agit en effet de l'argent du contribuable. Alors nous allons donc survoler quelques pays à travers des commentaires et réflexions de femmes leaders et d'auditeurs. Et nous allons aussi approfondir la question sur le Cameroun, ou de manière plus générale avec un invité à Yaoundé, le député et spécialiste en droit Cabral Libi. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Bonsoir à vous, madame Nathalie Barge. Bonsoir à tous vos auditeurs.
Alors, nous comprenons que le dispositif fiscal au Cameroun a été renforcé et le fiscaliste Moulion Mazou a dit à VOA Afrique qu'il y a eu, je cite, un déficit en communication sur cette réintroduction du paiement de l'IRPP. En 2004, on avait suspendu le recouvrement de cet impôt-là auprès d'une certaine catégorie de population, a-t-il dit. Et c'est ce que dit notre consoeur Evelyne Menge Akung également, qui est directrice des rédactions de la CRTV, la radio-télévision camerounaise. On l'écoute.
L'élargissement de l'assiette fiscale est une des sources de recettes pour l'État dans tous les pays du monde. On impose à chaque exercice un peu plus pour amasser le maximum de ressources possibles. Sur le principe, il n'y a pas de problème. Évidemment, ceux qui payent rechignent. Au Cameroun, la nouveauté, c'est effectivement un retour à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Cet impôt avait été suspendu pendant 5-6 ans. C'est une adhésion qui semble passer plus simplement qu'on ne l'aurait pensé. Maintenant, après, il faut bien qu'il y ait une contrepartie. Et je pense que c'est légitime de la part des populations d'attendre de l'État une contrepartie aux impôts qu'ils payent. La contrepartie, c'est d'avoir à disposition les services sociaux de base. La contrepartie, c'est d'avoir accès à l'eau, à l'électricité, c'est d'avoir accès à un environnement urbain qui soit à la hauteur des attentes et des impôts que l'on paye, que l'on puisse avoir des écoles, que l'on puisse avoir des hôpitaux, que l'on puisse avoir des routes en bon état, etc. Il faut trouver la juste mesure entre l'élargissement de l'assiette fiscale qu'on peut comprendre pour soutenir l'économie, mais aussi un retour d'ascenseur qui est attendu des populations et qui est légitime de leur part parce qu'ils aspirent à avoir des conditions de vie meilleures au quotidien.
C'était une réflexion de notre consoeur camerounaise Evelyne Menge Akung. Alors nous allons revenir sur cette question cruciale de savoir où va l'argent des contribuables. Mais dans un premier temps, Cabral Libi, pourriez-vous nous apporter un éclaircissement sur ces nouvelles mesures fiscales dans votre pays, le Cameroun, en une minute?
Alors une fois de plus, fondamentalement, il n'y a même pas de nouvelles mesures fiscales. L'impôt sur le revenu des personnes physiques figure bel et bien dans le Code général des impôts au Cameroun, tel qu'on va l'appliquer là, tel qu'on veut l'appliquer là maintenant. Il existe dans le Code général des impôts depuis, je crois, 2019 ou 2020. 2020, d'ailleurs, je crois, lorsque nous, on arrivait à l'Assemblée nationale, parce qu'on y est arrivé il y a 5 ans. Et lorsqu'on dit même qu'il a été suspendu, à la vérité, non. Il n'a pas été, l'impôt, l'IRPP n'a pas été suspendu au Cameroun. C'est la déclaration de cet IRPP qui était, en réalité, qui n'était plus obligatoire. Mais n'importe quelle personne physique pouvait déclarer son impôt. Maintenant qu'ils ont institué la télédéclaration, ils ont indexé à cette télédéclaration l'obligation pour tout le monde désormais de déclarer ses impôts. D'ailleurs, ça fait l'objet de beaucoup de débats au Cameroun ces jours-ci parce que le dispositif de télédéclaration est très défaillant. Mais en fait, il a toujours été défaillant, même pour notamment les entreprises qui, elles, devaient déclarer depuis longtemps. Ça a toujours été défaillant. Mais cette défaillance, aujourd'hui, défraie la chronique parce que, comme ça a été élargi et c'est rendu obligatoire pour tout le monde, comme ça se fait dans tous les pays du monde, et bien cette défaillance en rajoute à la polémique. Donc, globalement, il n'y a rien de nouveau fondamentalement. Je vous assure, vous pouvez télécharger le Code général des impôts du Cameroun de l'an dernier, de l'année d'avant, à l'article 26, à partir de l'article 26. Ça a toujours été là. Vous l'avez d'ailleurs très bien précisé tout à l'heure. C'est 10% avec les abattements forfaitaires, ça se réduit, mais c'est par catégorie d'ailleurs. Et même, on peut penser maintenant pour les grosses entreprises, notamment pour les gros contributeurs, que c'est même inéquitable. Parce que, bon, enfin, c'est un débat un peu technique, mais ça va jusqu'à 30% pour notamment ceux qui font, par exemple, des déclarations des revenus fonciers. Et ça va jusqu'à 30%. Donc, en fait, on leur applique le même taux que l'impôt sur les sociétés. Et alors, là, à ce niveau, quand même, on peut se poser des questions. Mais globalement, il n'y a vraiment rien de nouveau.
Alors, on va revenir sur toutes ces questions. On va écouter quelques commentaires, notamment celui d'un auditeur de VOA Afrique. C'est Fernandez Toyou, il est au Togo.
Oui, la population est réticente dans la mesure où les fonds sont mal gérés, aucun compte rendu. L'État n'a aucun devoir de redevabilité vis-à-vis des contribuables. Les choses sont gérées de la manière la plus arrogante possible. Donc, la population se sent vraiment flouée. Vous voyez des gens qui viennent collecter des taxes auprès de vous, on ne vous explique même pas ce à quoi cela sert. Et vous allez voir des gens qui roulent dans de grosses caisses et autres. Au même moment, le bas peuple n'a rien à manger. Donc, il est d'autant plus normal que les gens soient réticents. On ne vous fait aucun compte-rendu de ce qu'on fait avec l'argent public. Lorsque vous prenez, par exemple, les ressources dont dispose le pays en termes de sous-sol et autres, on ne vous dit pas combien on a pu engranger au cours de l'année, ça a servi à quoi. Tout est géré de la manière la plus opaque possible. Bon, maintenant, il va falloir qu'il y ait de la transparence autour de tout ce qui se fait, que l'État soit redevable vis-à-vis des contribuables en termes de développement infrastructurel et de rehaussement du niveau de vie de la population.
Écoutons à présent le professeur Yacine Diagne. Elle est enseignante chercheuse au CESTI de Dakar, au Sénégal.
Au Sénégal, les citoyens ordinaires ne sont pas réticents dans le fond à payer des impôts. Le problème qui se pose, c'est qu'ils ne savent pas ce que signifie l'imposition. Ils ne savent pas non plus à quoi cet argent collecté par les pouvoirs publics va servir. J'ai fait l'expérience en menant une enquête dans la banlieue dakaroise dans les années 2000 entre Pékin et Guédiouaï et il y avait un problème qui se posait, problème de taxes sur les marchés. Donc les commerçants à un moment donné avaient refusé de payer les taxes et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ne savent pas l'argent qu'ils donnent à l'État, à quoi ça sert, parce qu'ils ne voient aucune politique publique mise en œuvre ni exécutée par les pouvoirs publics hein, ou les pouvoirs politiques. Les paysans sénégalais ont payé des impôts depuis tout le temps, même avant ou pendant la colonisation, avant les indépendances, parce que les agriculteurs en milieu rural, surtout dans le bassin arachidier, l'État relevait des taxes sur leurs récoltes et ils acceptaient ça. Mais au fur et à mesure de donner cet argent-là et qu'ils ne voient pas une réalisation derrière ce qu'ils appellent une cotisation, ils refusent d'en payer. Donc, moi, je pense que pour éradiquer ce phénomène, il faut introduire dans l'éducation civique via des émissions hein, interactives ou dans les écoles ou autres, le système des impôts, à quoi ça va servir et les pouvoirs publics, après les collectes aussi de ces impôts-là, puissent mettre en place des politiques publiques et montrer aux citoyens à quoi sert cet argent-là, où va cet argent. En France, quand on paye les impôts, on sait à quoi ça sert. Ça va servir à mettre en place des politiques publiques. Au Sénégal, on paye même les fonctionnaires qui sont prélevés à la source dans des discussions informelles, se posent la même question. Mais où va mon argent?
Alors, le professeur Yacine Diagne a élargi finalement sa réflexion jusqu'au niveau des taxes. Vous savez, ces taxes qu'on vous prélève notamment quand vous travaillez sur le marché.
Au niveau des marchés, vous allez voir par exemple une tablière, une vendeuse de fruits et légumes dans n'importe quel marché de Dakar. On va lui prélever des taxes journalières, mais après, ce n'est pas pour réfectionner le marché. Il y a des marchés où il n'y a même pas de toilettes publiques. Le nettoyage aussi laisse à désirer. Et pour que les gens adhèrent, il faut les convaincre. Et pour les convaincre, il faut mettre en place des politiques publiques dignes de ce nom avec l'argent récolté ou collecté par les impôts.
Cabral Luby, vous avez entendu ces réflexions, hein. On a à peu près le même genre de réflexion hein, de commentateurs. La question de où va l'argent ? Où va l'argent ? La question de la transparence. Est-ce qu'on a des preuves palpables de ce qui est fait pour le développement du pays au niveau des infrastructures, du service social, au niveau du service public ? Ce sont des questions que tout le monde se pose finalement.
Ben évidemment, madame. De tout temps et où qu'on se trouve sur la planète Terre, je crois que la question de l'impôt a toujours été enveloppée de deux choses. La première, c'est la réticence des humains en général à le payer. Et la deuxième, c'est la légitimité de l'État à le collecter. Autant partout sur la planète, les gens sont réticents à payer l'impôt. Aux États-Unis, en France, on a même souvent eu droit à de gros scandales, des gens qui contournent l'impôt, s'en vont dans les paradis fiscaux et autres. Autant, d'un endroit à l'autre de la planète, la question de la légitimité se pose différemment. Dans les parties du monde où les gens ont le sentiment que l'impôt qui est collecté par les pouvoirs publics leur est retourné par une meilleure qualité de service public, le problème ne se pose pas. Mais comme cela semble se dégager de façon unanimitaire dans les opinions que vous avez diffusées, le problème qui se pose au Cameroun, il est là. Non, même pas tant à cause de ce qui défait la chronique, parce qu'à la vérité, déclarer l'impôt ne veut pas dire le payer. On peut toujours déclarer qu'on a payé, on peut déclarer qu'on n'a même rien reçu, mais en fait, on ne le paiera pas plus tard que s'il est en contrôle qui arrive. Mais à la vérité, au Cameroun, autoriser aujourd'hui, généraliser les contrôles sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques, mais c'est donner un coup de boost à la corruption, personne ne pourra l'arrêter. Parce qu'on sait que une bonne partie des agents collecteurs des impôts sont véreux. Ça se voit dans les immeubles qu'ils construisent partout, ainsi de suite, les véhicules rutilants dans lesquels ils roulent. Donc le gros problème, comme cela s'est dégagé, je l'ai dit tantôt dans les opinions que vous diffusez, c'est que dans des contextes comme les nôtres, le Cameroun, quelqu'un le disait, du Togo, du Sénégal, ça ne sert à rien de dire aux gens de payer un impôt lorsqu'ils savent que cet argent va ruisseler dans les circuits de gabegie qui existent. On est quand même dans un pays où des milliards de francs CFA sont partis en fumée lorsqu'on organisait la CAN, avec des stades qui sont en train de se dégrader aujourd'hui qui n'ont jamais été achevés. On est quand même dans un pays où on parle de 1000 milliards de francs CFA détournés dans la lutte contre le Covid. Donc les scandales se succèdent, on en est même en réalité complètement abasourdi. Les gens, ils s'en foutent. Donc, la clé, c'est le service public, madame. Alors, les gens veulent voir les impôts sur la qualité des routes, un peu comme le disait la dame de la CRTV tout à l'heure, ma compatriote. Les gens veulent voir ces impôts sur la qualité des routes. Là, au moment où je vous parle, madame, je suis dans un embouteillage en plein cœur de Yaoundé, rentrant de l'Assemblée nationale depuis pratiquement 1h30. Parce que la route, non seulement elle est dégradée, elle est exiguë, celle qui mène à mon domicile. Et vous dites à tous ces gens qui sont alignés devant et derrière moi qu'il faut payer l'impôt à tout prix. Ben, ils vous rient au nez. Et si vous insistez, ça devient autre chose.
Alors justement, en fait, parce que le problème, c'est qu'on est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que d'un côté, on dit que les autorités ne font rien de cet argent, ou en tout cas l'utilisent on ne sait comment. Et puis, les contribuables ne veulent pas payer l'impôt. Donc finalement, ça bouge ni d'un côté, ni de l'autre. On va revenir sur ces questions-là. Écoutons d'abord, on fait un petit tour au Rwanda pour écouter un auditeur, c'est Jean-Louis.
L'approche du Rwanda est multiple. Il y a le ticket modérateur pour le secteur de la santé. Chaque année, chaque famille cotise un montant par rapport à la classe sociale et tout le montant est mis dans un pot qui permet de recevoir des soins de santé, y compris les médicaments, en payant un pourcentage du coût, moins de 20%. Le reste est pris en charge par la mutuelle de santé. Les impôts locatifs, un mois environ sur l'année, en monnaie locale est alloué au district où se trouve l'habitation. Le taux de la TVA est de 18%. Les exportations de biens et de services fournis à des missions diplomatiques et consulaires rendues à un touriste pour lequel la taxe sur la valeur ajoutée a été payée sont détaxées. Tout récemment, les cotisations sociales sont passées de 6% à 10% à 12% à partir de 2025, moitié pour l'employeur et l'employé. Si vous voulez des routes sans nid de poule, le courant 24 et 7, l'eau, la sécurité, il y a un prix à payer.
Écoutons à présent Hortense Cavuot-Maliro. Elle est la présidente de l'Association pour l'intégration sociale des personnes vivant avec handicap à Goma, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo.
Loi des finances de 2020 donne les barèmes de l'impôt sur la rémunération, qu'on appelle IPR. Et comment on les calcule chez nous en RDC? C'est de 3% à 40% selon les tranches des revenus qui sont définies dans la loi des finances. Tout compatriote digne de ce nom doit payer son impôt. Parce qu'on paye l'impôt pour bénéficier de belles écoles, de beaux hôpitaux, des routes qui sont modernes et les transports publics, tout ça. Donc, la sécurité. Maintenant, tu es en train de contribuer et tu ne trouves pas gain de cause. Tu n'as pas accès à tout ça. Et là, ça décourage les contribuables. Et ça échappe à la finance publique. Alors, il faut toujours encourager les contribuables à toujours payer. Mais que l'État puisse gérer très bien, qu'il puisse être rationnel par rapport aux attentes de la population et qu'ils évitent à hausser les taux parce que trop d'impôts tuent l'impôt.
Cabral Libi, vous avez entendu tout à l'heure cet auditeur du Rwanda. Alors on sait qu'au Rwanda, finalement, depuis ces deux dernières décennies, on a un très bon développement et il a l'air de dire, on le croit, que justement l'argent est bien utilisé pour cela. Donc comment, alors quels sont les remèdes pour que tous ceux qui doivent payer l'impôt sur le revenu le fassent et pour que les institutions fiscales gèrent cet argent correctement? Vous êtes député, donc est-ce que vous avez des solutions pour ça?
Ah oui, mais j'en ai proposé, madame. Je viens de publier un ouvrage au Cameroun, ce que j'ai vu. Il faut préciser, bon, enfin, on dira que je fais mauvaise langue parce que je suis un député d'opposition. J'ai essayé d'être président il y a 7 ans, et j'ai l'intention, il y a 6 ans en tout cas, j'ai l'intention d'essayer encore dans un an. Donc on dira, oui, je prêche pour ma chapelle. Mais globalement, madame, je vous l'ai dit, ça ressort partout. J'aime bien que vous reveniez sur ce qui a été dit par le Rwandais. Si vous voulez de belles routes, vous voulez des hôpitaux, vous voulez la sécurité, vous voulez la santé, la couverture santé, mais il y a un prix à payer. Mais évidemment, madame, le rôle de l'État n'existe pas autrement que pour nous protéger. Il n'existe pas pour autre chose. Mais l'État, c'est vous, c'est moi. Donc l'État, c'est l'administration, l'État, c'est les structures qui nous administrent. Mais qui nous administre quoi? Qui nous administre quoi? Parce qu'il faut bien revenir sur ce qu'on appelle en économie sociale les services administrés. Madame, c'est la justice. Madame, c'est la santé. Ce sont les infrastructures. C'est l'éducation. Ce sont ces attentes basiques vis-à-vis de l'État. Mais lorsque nous donnons de l'argent et que justement tous ces services administrés que je viens de mentionner sont défaillants, déjà avec le peu que nous donnons. Parce que par-dessus tout, même si tous les Camerounais ne payent pas l'impôt, et je suis le premier à demander que ce soit fait. D'ailleurs, pour que ma parole soit légitime, j'ai publié aujourd'hui même, sur ma page Facebook, mon avis d'imposition. Moi, j'ai payé, j'ai déclaré depuis le mois de juin. Parce que les délais, en réalité, au Cameroun, légaux, c'est début juin. Donc, je suis légitime de le dire. Moi, je le fais volontiers. Mais je dis bien, en tant que représentant du peuple, que je comprends la réticence de ceux-là que je représente à l'Assemblée nationale à le faire. Parce qu'ils me disent, le peu déjà que ceux qui payent donnent, à quoi ça sert? Mais on sait très bien à quoi ça sert. Mais bon, on n'en est plus là. Vous m'avez demandé c'est quoi le remède? Le remède, madame, dans un pays comme le Cameroun, c'est fatalement cela. Il faut déjà que ça change. Que ce qui nous gouverne au Cameroun change. Il faut que des gens exemplaires accèdent au pouvoir. Ça commence par là. C'est la solution dans tous les pays du monde. Deuxièmement, il faut que l'État, les structures de l'État, madame, soient renforcées. Lorsque l'on patrimonialise les structures de l'État, lorsqu'on personnalise l'État, lorsqu'on a le sentiment que ceux qui incarnent l'autorité de l'État eux-mêmes échappent aux règles de fonctionnement de l'État, et qu'ils tirent simplement profit de leur position de pouvoir pour imposer aux autres le respect des règles de l'État, ça pose problème. Pourquoi je le dis? Plusieurs fois à l'Assemblée nationale, j'ai dénoncé les niches fiscales. Et on se rend compte que dans un pays comme le nôtre, effectivement, il y a plein de gens qui devraient payer l'impôt mais qui ne le payent pas. On a même le sentiment que l'on taille parfois la réglementation fiscale sur les contours de certaines personnes qu'on veut mettre à l'abri de la contribution fiscale, en tout cas à la hauteur de ce qu'ils sont en droit de faire. C'est donc de l'injustice, c'est donc de l'iniquité. Et puis, troisième chose, évidemment, madame, la corruption. Mais là, le serpent se mord la queue. Parce que pour que nous luttions contre la corruption, vous savez, le Cameroun a été en tête de plusieurs rankings. On était même numéro un mondial pendant 3 ou 4 ans, je me souviens, mais c'est de mauvaises années, je préfère ne pas m'en souvenir. Mais nous sommes tous arrivés à la conclusion que nonobstant tout ce qui a été mis en place, la corruption ne reculait pas. Mais on est arrivés tous à la conclusion, en tout cas pour nous autres qui y réfléchissons de façon éclairée, que seule l'amélioration du service public pouvait faire reculer la corruption. Donc là encore, on se retrouve dans une forme d'impasse. C'est-à-dire, vous voulez que les gens payent mieux l'impôt, ben il faut qu'il y ait moins de corruption. Vous voulez que le service public soit performant, mais là encore, il faut moins de corruption. Mais pour qu'il y ait moins de corruption, il faut que le service public soit amélioré. Parce que lorsque les gens sentent que l'État répond à leurs attentes, ben ils sont moins enclins à voler l'argent de l'État. Mmh. Mais lorsque l'argent de l'État est entre les mains d'une poignée, que font les gens? Ben ils voient l'État comme une vache à lait. Donc je prends le max que je peux prendre, puisque de toute façon l'État ne me protège pas, il faut que je me protège moi-même.
Oui, alors je vous reposerai une question tout à l'heure justement sur le problème de la corruption. Écoutons tout d'abord Stéphanie Padonou, elle est entrepreneur gabonaise vivant au Canada.
Selon moi, la réticence de bon nombre de populations africaines à payer de l'impôt peut aisément se justifier. Mais pour emmener ces populations à développer ce réflexe, je vois 3 choses élémentaires à faire. La première, ce serait d'éduquer les populations à la culture de l'impôt. Il s'agirait ainsi d'expliquer et de démontrer à quoi sert l'argent ainsi récolté. Une certaine forme de transparence, en fait, aiderait beaucoup pour que les populations comprennent que cet argent-là leur reviendrait, mais sous forme de service. En deuxième position, je vois le fait de développer en fait des services qui répondraient de façon gracieuse justement aux besoins des citoyens. On parlerait ainsi de soins de santé gratuits, du moins de l'accès justement à ces soins de santé, de l'accès peut-être à des médicaments de base de façon gracieuse, pourquoi pas, la voirie. Et le troisième point, c'est qu'il faudrait en fait divulguer les sanctions prévu en cas de non-paiement, mais surtout veiller à leur application. Je ne parle pas forcément de courir et harceler le petit commerçant, non. Comme on dit justement, il faut prêcher par...
Alors on a été coupé, je ne sais pas pourquoi, alors c'est pas grave, on va écouter à présent, on refait un petit tour en République démocratique du Congo pour écouter Elodie Ntamuzinda, qui est militante des droits des femmes et experte au Conseil économique et social donc de la République démocratique du Congo.
La population vraiment n'a pas cette culture de se soumettre aux impôts, cela remonte de la méfiance vis-à-vis de la gouvernance du pays. Nous sommes méfiants. Lorsque nous nous soumettons à ces impôts, mais il n'y a pas le retour d'ascenseur, nous essayons de les faire puisque nous savons que c'est notre pays et c'est de notre devoir. Mais vraiment, ça devrait être une culture ancrée au sein de la population et la population devrait palper les réalisations et les feedbacks positifs de ces impôts. Nous n'avons pas des infrastructures de base, nous n'avons pas des soins élémentaires, pas d'électricité, pas de soins médicaux, pas d'eau. Et donc, en général, la population se pose la question à quoi est-ce que réellement ces impôts peuvent servir. Mais entre-temps, tout ce qu'on suit dans les médias, dans les réseaux sociaux et même les plaintes des dirigeants en rapport avec les détournements des deniers publics, les trésors publics qui continuent à être saignés, on a détourné des centaines de millions par-ci, centaines de millions par-là. Maintenant, la population se pose la question si réellement il n'y a que ça comme feedback vis-à-vis de ces impôts. Et les autorités doivent continuer vraiment à s'engager activement à tout ce que nous ratifions au niveau sous-régional, régional et même international en rapport avec la bonne gouvernance.
Cabral Libi. Vous avez entendu Elodie Ntamuzinda, elle rejoint ce que vous avez dit. On revient sur la corruption, parce que vous dites qu'il faut améliorer le service public. Alors, je repose la question, comment lutter efficacement contre cette corruption au sein des institutions de recouvrement de l'impôt et des taxes, en tout cas quelque part dans la chaîne du cheminement de cet argent du contribuable. Améliorer le service public, qu'est-ce que cela veut dire? On le fait maintenant, on attend quoi? Faut-il changer les personnes? Faut-il faire des formations? Faut-il faire des contrôles? Faire des sanctions? Comment vous comptez améliorer le service public?
L'amélioration du service public, madame, c'est quelque chose de bien simple. Enfin, en théorie. C'est qu'il faut équiper les hôpitaux. L'une des choses les plus basiques, il faut équiper les hôpitaux. Lorsque les gens y tombent malades, ils veulent être soignés.
Oh, j'avais compris, excusez-moi, j'avais compris que vous parliez, parce que nous, on comprend quand même qu'il y a des problèmes au niveau de ces institutions fiscales. On parle de corruption, mais la corruption vient de quelque part. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous comptez améliorer ces institutions fiscales.
Je crois que Vous l'avez dit vous-même, madame, tout à l'heure. Il faut changer les hommes. Mais disons, ça, c'est la dimension politique. Par exemple, la numérisation, madame. Je crois que l'une des choses qui marche le mieux aujourd'hui au Rwanda, ça se dit partout en Afrique, je n'y suis pas encore allé, mais je crois que l'une des choses qui marche le mieux aujourd'hui au Rwanda, c'est la numérisation. Un pays, effectivement, comme le Cameroun, rechigne à numériser. Et c'est ça qui traduit la volonté ou le manque de volonté de mettre fin à la corruption dans les circuits des administrations fiscales. Figurez-vous, madame, que déjà, je vous ai dit tout à l'heure qu'ici, ces jours-ci, ça défrayait la chronique, c'est parce qu'il y avait des problèmes même à déclarer ces revenus. C'est pour cela qu'on vient de repousser, là, ça devait s'arrêter le 2 décembre, on vient de repousser au 9 décembre. Et aujourd'hui encore, j'ai échangé avec des gens qui ne peuvent pas déclarer. Pourquoi? Parce que le dispositif informatique qui a été mis en place est défaillant. Mais défaillant, ils l'ont fait exprès. Parce qu'en 2014, lorsque le débat a eu lieu au Cameroun en 2014 sur ce dispositif informatique, il y a eu des offres qui ont été faites, notamment d'experts internationaux qui voulaient doter le Cameroun d'outils efficaces et efficients dans la numérisation fiscale, de telle sorte que toutes les recettes du Cameroun soient reliées à une plateforme unique, que ce soit les douanes, que ce soit les impôts, ainsi de suite, pour qu'il y ait une lisibilité de tout ça. Mais ceux qui devaient le faire ont refusé, ils ont préféré à l'époque, avec l'argent qui était dédié à ça, donner des marchés pour la construction d'un bâtiment qui abrite les services des impôts. Donc, et en lieu et place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un mauvais service qui a été bidouillé par un informaticien peu qualifié de la maison, et ça donne le système qui est aujourd'hui, qui permet à des informaticiens du service des impôts de modifier les déclarations. Le Cameroun, c'est un des rares pays, et j'ai eu l'information aujourd'hui, où vous pouvez faire une déclaration lundi, et vous rentrez dans le système avec l'aide des informaticiens de la maison à qui vous donnez de l'argent, vous annulez votre déclaration. Donc, il faut impérativement, c'est-à-dire avant d'arriver même au changement des hommes, parce que là-bas, il faut des élections, une nouvelle vision, un nouveau management, me direz-vous, des hommes exemplaires et tout qu'il faudrait installer. Mais déjà, il faudrait commencer par là, la numérisation du système. Moi, je suis arrivé à l'Assemblée nationale, l'une des premières choses que j'ai proposées au gouvernement, c'était cela. Et il y a même déjà des mesures qui ont été prises, mais ils ne veulent pas les appliquer. Donc, si vous numérisez aujourd'hui, véritablement, vous réduisez le contact entre l'usager et les agents des impôts.
Alors, la numérisation, on a bien retenu. Je vous pose une dernière question très rapidement. On a très peu de temps. On parle beaucoup de la sensibilisation du contribuable pour lui apprendre à payer les impôts. Est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement une sensibilisation à faire aussi qui s'adresserait aux dirigeants, aux officiels, aux cadres d'administration qui finalement ont des problèmes de corruption pour certains? Très rapidement.
Si la sensibilisation pouvait mettre fin à la corruption, il y a des années-lumière, il y a très longtemps que le Cameroun serait sorti de la corruption. Non, madame, ce n'est pas la sensibilisation. Je crois que ces deux choses qui ont été dites, qui sont concomitantes d'ailleurs, l'amélioration du service public indexée à une discipline et surtout à une répression sévère de ceux qui... Et d'ailleurs, je crois que c'est le pari oui. qui a essayé de tenir un pays comme le Rwanda.
Et voilà, et on va terminer.
Les
je suis désolée, je suis obligée de vous couper. On arrive au terme de l'émission, Monsieur Cabral Libi. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes député camerounais. Avec vous, c'était Nathalie Barge. À la production, Joselle Morissin. Restez avec nous pour la suite de nos programmes sur VOA Afrique. Bonne soirée à toutes et à tous et bon courage.